Merci d'écouter France Culture. Il est midi 45. C'est l'heure de vous retrouver, Maëlys Bessery, pour la grande table d'été.
Absolument, merci Maxime. Bonjour à tous, la grande table se prolonge en août en compagnie des artistes. À 13h50, François Sureau posera ses bagages à Jumièges pour évoquer Arsène Lupin, le héros de sa jeunesse. Mais avant cela, nous allons rendre hommage à Alan Parker qui s'est éteint le 31 juillet dernier, père d'une œuvre si hétéroclite que les films cultes ont tendance à recouvrir le nom du réalisateur. Midnight Express, Mississippi Burning, Angel Heart, des traversées au cœur des violences étatiques et politiques. Au centre de sa pellicule, les droits civiques, les droits de l'homme et la peine de mort qu'il écartera officieusement d'Hollywood. Le cinéaste britannique, riche d'une carrière américaine, a fait le grand écart entre films politiques et comédies musicales tout aussi célèbres. Pour revenir aujourd'hui sur sa carrière et son œuvre, nos invités sont les critiques Pierre Charpillose d'Arte, Bande à part et Revue et corrigée, Simon Rio du Cercle Canal Plus et Écran Large, et Marc Moquin, rédacteur en chef de Revue et corrigée. Bienvenue à tous sur France Culture.
Grande table d'été, Maëlys Bessery.
Oui, dans un livre, on peut rentrer dans la tête de quelqu'un, c'est toujours plus facile. Alors qu'au cinéma, il faut montrer ces choses. Il faut en même temps laisser assez pour l'imagination du spectateur et que son imagination puisse marcher. Il faut être près de la vérité. Et là, la vérité est un petit peu étrange. Moi, j'essaie d'éviter d'intellectualiser. Je crois que ça fait beaucoup de mal au cinéma. Je dois dire d'ailleurs que les Français ont une part de responsabilité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer l'émotion. C'est comme ça que je fais et finalement, je suis très content de ça.
Alors, on commence tout de suite avec les Français. Alors, c'était Alan Parker, une archive du 23 mai 1985. C'était sur France Inter. Il évoquait notamment le film Birdie. C'est à propos de ce film-là qu'il parle de l'œuvre littéraire. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Simon Rio, donc petit reproche à l'égard des Français qui intellectualisent trop. En tout cas, c'est un reproche qu'il fait au cinéma. Lui, son idée, c'est de transcrire en image. C'est une véritable écriture visuelle qu'il met en place et qui était assez novatrice à la fin des années 70. Il va y avoir une patte tout de suite, Alan Parker.
Bien sûr, ce qui va faire et la spécificité d'Alan Parker, mais aussi peut-être la difficulté à l'appréhender, c'est le moment où il débute sa carrière. Quand son premier long métrage Bugsy Malone sort, alors certes il concourt à la Palme d'Or à Cannes, néanmoins, on est à l'époque, on va dire, encore j'ai envie de dire, officiellement en plein nouvel Hollywood, mais Steven Spielberg vient de mettre le premier coup de poignard dans le contrat avec Jaws, avec Les Dents de la Mer, et tout simplement, le nouvel Hollywood va s'éteindre progressivement, voire chuter, et les studios vont reprendre la main. Or, Alan Parker, il est un petit peu à la croisée des chemins en la matière. Il a des thématiques, un rapport au monde et un rapport à l'écriture de ses personnages qu'on peut trouver très très proche de ce qui s'est fait pendant le nouvel Hollywood. Et en même temps, son cinéma est aussi celui d'un orfèvre, aussi celui de quelqu'un dont on sent qu'il a envie, mais surtout besoin, pour pouvoir porter les récits qu'il amène. Il a besoin des studios. Et donc, il est un peu entre les deux, et ça va le rendre à la fois très singulier quand il commence à faire des films, mais aussi un peu difficile à appréhender parce que c'est très compliqué de le mettre dans une case.
Alors un petit mot quand même peut-être sur ce qu'il vient de dire, la question de l'intellectualisation au cinéma.
Justement, je me dis que là aussi c'est quelque chose qui a dû lui poser problème parce que on lui a reproché en creux justement souvent d'être ce qu'on vient de souligner, à savoir un réalisateur de l'émotion, de la narration, tout simplement par une grammaire de la... Oui, encore une fois, de l'émotion. Moi, je pense au nombre de...
On a même parlé de dramatisation, d'esthétisation de la violence.
Absolument, mais puis il faut voir le nombre de plans dans certaines de ses œuvres qui sont consacrés au visage de ces personnages et au visage de ces personnages dévoilant une émotion ou changeant brusquement. On évoquait Angel Heart tout à l'heure, c'est absolument frappant de ce point de vue-là. Et la plupart des sommets émotionnels du film viennent de ce type de passage. C'est vrai dans Midnight Express aussi. Et tout simplement, je pense que oui, il a beaucoup décontenancé peut-être une critique française qui au milieu des années 70, commençait à retrouver son cinéma américain et qui là, tout d'un coup, a vu arriver des mutations qui peut-être n'étaient pas de son goût à ce moment-là.
On va peut-être parler aussi, Marc Moquin, de la beauté des images quand même. La beauté de ces images, notamment du paysage du sud, Mississippi Burning, mais pas uniquement. Angel Heart aussi se déroule pour partie en Louisiane. Il y a cette inspiration d'autres imaginaires et d'autres images qui vient aussi de la pub, univers commun aux Scott, à Ridley Scott. Et vous, vous avez justement écrit un livre sur Tony Ridley Scott, frère d'armes chez Playlist Society. Peut-être vous pouvez nous parler de cette influence de la publicité.
Exactement. En fait, Alan Parker appartient à une génération de cinéastes anglais, donc dans laquelle il y a aussi Tony et Ridley Scott dont vous avez parlé, qui a été transfuge de la publicité vers le cinéma, passant aussi par le scénario avant d'être réalisateur, comme ça a été le cas d'Alan Parker. Et en fait, Alan Parker, qui en plus vient d'un milieu modeste, à la fin des années 60, il s'est retrouvé embarqué avec cette génération de cinéastes dans une petite boîte de pub qui s'appelait RSA, Ridley Scott Associates, entreprise qui existe d'ailleurs toujours, qui produit encore des publicités. Et donc parmi ces associés, il y avait donc Ridley Scott, Tony Scott, Hugh Johnson et Alan Parker. Et donc avec cette boîte de pub et une autre boîte qu'il a embauchée dans les années 70, il a réalisé un nombre assez considérable de spots cultes, en fait, enfin cultes pour la télé britannique, hein. Chez nous ils sont pas forcément connus, et surtout qui ont été, et pour cette génération-là, un champ d'expérimentation visuelle et dans des registres totalement différents, soit des pubs toutes bêtes sans images avec que des acteurs, soit des trucs un petit peu plus évolués. Il a notamment réalisé une pub pour une marque de stylo qui porte le même nom que lui, on va dire ça comme ça, et qui est une pub extrêmement visuelle, extrêmement léchée, et qui préface déjà certaines certains éclairages qu'il fera dans ses propres films, une pub avec des ombres très fortes, c'est quand même pas commun non plus pour de la publicité. Bref, c'est un cinéaste très visuel, et donc on retrouve ce qu'on disait avec Simon, le fait qu'il passe, le visuel passe absolument par l'émotion et non par l'intellectuel. Donc en effet, une pub c'est pareil, il faut que ça passe par l'émotion, on peut pas intellectualiser une pub, et donc pour ça il a été décrié pour ce travail-là, pour ce qu'il a fait à l'époque avec les Scott, qu'il a cette idée de l'image qu'il a ensuite transposée sur les films, et les critiques qu'il y a eu sur Alan Parker, sur certains de ses films, c'est de l'esthétique de pubard, comme on disait, c'est des critiques qu'on a retrouvées pour les films de Ridley ou Tony Scott, les fameux films de pubard.
Alors d'un côté, il y a cette esthétique qui vient de la publicité, Pierre Charpillaud, cette esthétique très forte, et en même temps, il n'y a pas d'intellectualisation, mais il y a quand même un engagement politique qui est plus qu'évident. Lui, le Britannique cinéaste à Hollywood, fait des films extrêmement politiques. Ça sera quand même le fil conducteur de son œuvre.
Oui, c'est dans tous ses films, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte, si on prend des films par exemple comme Mississippi Burning, qui est certains films qui parlent de la lutte contre la ségrégation, qui est un film contre le racisme. On lui a reproché de prendre un sujet un peu évident, évidemment, personne ne va être contre lui quand on prend un sujet comme ça. Et pourtant, quand on regarde le détail de l'histoire, elle est quand même un peu plus intéressante. On a deux policiers du FBI qui sont dépêchés sur place pour résoudre une affaire dans laquelle trois militants des droits civiques sont assassinés. Mais si parmi ces trois militants des droits civiques qui sont assassinés, l'un d'eux n'était pas blanc, certainement qu'aucune force du FBI n'aurait été dépêchée sur place.
Il y en a deux qui sont blancs même, oui, absolument.
Exactement, tout à fait.
Absolument. Et donc, dans ce retour au sujet politique, il s'empare de sujets extrêmement américains. Et ça, c'est peut-être sa singularité aussi, en tant que Britannique, il va s'intéresser à des sujets américains qui ont une portée un peu universelle. Question raciale, question droits de l'homme, évidemment Midnight Express.
Midnight Express, tout à fait, la question de la justice, la question aussi de, est-ce qu'une peine peut être, comment mesurer une peine par rapport à un crime? Et à nouveau, on a un personnage qui est un criminel, c'est pas quelqu'un qui est condamné contre son gré. Ce qu'il a fait, il a transporté de la drogue, il est, accusé pour cela, et malgré tout, ce à quoi il sera puni sera tout à fait en déconnexion par rapport à sa peine sera en déconnexion par rapport à son crime. Et justement, qu'est-ce qu'une peine? Qu'est-ce qu'un crime? Comment punir? Il sera aussi un pion dans un espèce de jeu politique entre la Turquie et les États-Unis à ce moment-là. Donc c'est ça qui est assez intéressant. C'est pas quelqu'un qui est pas du tout coupable ou qui est un pur innocent, qui est condamné contre la justice. Et la justice qui est tout à fait manipulée ou quoi que ce soit. C'est une justice qui existe, qui est une justice d'un pays contre quelqu'un qui a effectivement fait un crime, même si sa punition est tout à fait déconnectée.
Alors, Simon Rio, avant de rentrer dans les détails de Midnight Express, qui a fait aussi l'objet de bon nombre de polémiques, en Turquie notamment, qui a donné lieu à des excuses, etc. Il y a ce grand écart quand même chez ce cinéaste, Alan Parker, entre les films musicaux, Fame, notamment, grande comédie musicale qui donnera lieu à une série, etc. Et de l'autre côté, les films politiques et les films noirs quand même qu'on lui connaît.
Mais alors, déjà tout bêtement, ça a l'air bateau, mais il y a évidemment un intérêt, un élan pour lui, pour le cinéma musical qui est très très fort. Mais je pense aussi, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait sur son rapport à la politique américaine, en fait il fait quelque chose qui peut-être à l'instant où sortent ses films échappe un tout petit peu à ceux qui vont le recevoir, mais qui est extrêmement malin. Plutôt que d'être un cinéaste britannique qui va parler de politique américaine, il va utiliser l'Amérique et l'Amérique comme symbole, qui est donc le maître étalon, qui est l'universel en fait au cinéma, l'universel à ce moment-là et encore aujourd'hui, c'est l'Amérique. Et donc il va utiliser l'Amérique comme ça pour parler de politique au sens noble et en termes de vie de la cité. Et c'est peut-être pour ça qu'il a un regard qui est aussi moderne, aussi visionnaire, vraiment en termes de positionnement sur les questions qu'il va employer. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il arrive à le faire, notamment via la musique, via en fait, encore une fois, j'ai envie de dire, des espèces de petites boîtes à penser, des mécanismes plutôt universel ou perçu par le spectateur de cinéma comme devenu universel. C'est très frappant, par exemple, dans Mississippi Burning, on se souvient, il y a 2 ans, au moment des Oscars, Green Book, qui est célébré aux États-Unis, est également pointé du doigt comme étant un film, en gros, un film de blanc sur le racisme et un film de blanc qui se disent deux types qui deviennent amis, ça peut réhabiliter l'histoire des États-Unis. En gros, pas un film de sauveur blanc, mais pas loin. Et là, quand on regarde, que ce soit Bugsy Malone, son premier film, que ce soit, on vient de le dire, Mississippi Burning, il est frappant de voir justement que lui a déjà en tête ces questions d'identité, d'identity policies, et c'est frappant aujourd'hui, quand on le redécouvre, de réaliser que s'il a été si difficilement appréhendé à l'époque, c'est peut-être parce que justement il était très en avance dans la manière de se représenter le fait politique.
Alors peut-être aussi dans le traitement, pour revenir quelques minutes à Midnight Express, il y a cette violence qui est montrée, qui ne l'était pas encore en 78. Je vous propose d'écouter un extrait, c'est l'arrestation à l'aéroport.
Frisbee. You throw it, catch it. It's a game.
Balloon?
Game.
Dicky, I love Americana. Baseball.
Ochani.
Grâce à la magie du montage, on finit sur la musique de Giorgio Moroder, très importante aussi pour ce film. On voit les partis pris narratifs et esthétiques très forts. Hein. On est du point de vue du personnage, on entend les battements de son cœur et le turc n'est pas traduit, donc la langue nous est étrangère.
Totalement. Et d'ailleurs, je vous remercie en fait parce que j'avais jamais pensé à seulement écouter, ne pas voir l'image d'un film d'Alan Parker en fait. Tout à l'heure, on disait que c'était un réalisateur visuel. Là, on vient juste d'entendre une version audio, enfin un extrait audio d'un de ses films, et c'est une scène qui fonctionne complètement parce que comme on est dans une immersion et qu'il y a des procédés narratifs très simples, là en l'occurrence, donc il n'y a pas de musique, où il y a plutôt le battement du cœur qui fait office de musique avant qu'il y ait le générique de Giorgio Moroder qui arrive. On est
très important, hein, sa musique qui va être elle-même un facteur énorme de réussite du film,
oui,
du succès
qui va devenir énormément culte. En plus, c'était une époque où Giorgio Moroder allait être au sommet de la vague. 4 ans plus tard, je crois, il signe la bande son de Scarface notamment. Et donc voilà. Et donc là, on est avec ce personnage qui est et il y a un truc qui me paraît totalement on va dire matriciel dans le cinéma d'Alan Parker, c'est l'idée de dire que voilà, on est un cinéma qui va employer des outils très simples, des outils émotionnels, plastiques, sonores, n'importe, très simples. Il y a une promesse. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous acceptez d'être dans un cinéma qui, comment dire, où la fin justifie les moyens? Donc un cinéma, je vais dire, on va dire, ça peut paraître pas gentil, mais ça dépend. Un cinéma pas subtil, on va pas dire que Midnight Express est un film subtil. Et moi, quand j'ai revu ce film en salle il y a 3 ans à peu près, je m'en rappelle bien, j'en avais le souvenir d'un film, voilà, que j'avais découvert un peu plus jeune à la télé, que j'avais regardé avec un œil distant, un peu kitschoun, oui, musique culte, oui, ça dit des choses intéressantes sur la morale, ou la moralité plutôt. Et ensuite, en salle, c'est plus la même expérience parce qu'on se retrouve encerclé par ce cinéma, par un vrai metteur en scène qui prend son spectateur, qui ne lâche pas. Là, on a une séquence qui ne vous lâche pas. Il y a un moment où le rythme du cœur, le battement du cœur s'affaiblit un peu. Oh, on va mieux. Tout d'un coup, le rythme reprend. Et là, dans le studio, j'étais de nouveau extrêmement pris. Et ça m'a rappelé cette séance d'il y a 3 ans. Et comme quoi, parce que je m'étais posé des questions. J'ai revu là des extraits pour préparer l'émission de Midnight Express. Je m'étais posé des questions en mode, est-ce que j'aime toujours autant ce film? Mais oui, c'est un film qui fonctionne toujours autant. Mais on en revient à la même chose, en fait, pour ce rapport à l'émotionnel, ce qui déplaît à plein de gens et qu'on a revu d'ailleurs dans certains papiers qui ont été faits pour le décès d'Alan Parker, où des gens ont remis encore un peu ce truc sur le tapis, comme quoi, en fait, c'est combien? C'est 78, donc on est plus de 40 ans après Midnight Express, on n'a toujours pas fait le tour de la question.
Mais est-ce que c'est pas, Simon Rio, son travail aussi, de cinéaste, que d'être simplement dans l'image, dans la création, et pas du tout dans un travail explicatif, parce que la dimension immersive, elle est forte, mais son parti pris, il est extrêmement tenu.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on est dans la tête de ce personnage-là jusqu'au bout et on est dans cet enfermement.
Tout à fait. Et puis moi, je suis assez d'humeur de dire que le fond et la forme au cinéma est EST et il le prouve très bien. Et ce qui est passionnant d'ailleurs, moi, je me dis que si dans la génération chez les moins de 40 ans aujourd'hui, s'il y a une telle réhabilitation d'Alan Parker, il y a peut-être aussi un élément, c'est que Alan Parker, vous parliez d'immersion, a eu une influence phénoménale, notamment sur le jeu vidéo qui a repris, en termes de son, de travail du son, énormément d'effets qui ont été popularisés par Alan Parker. Alors à quel degré de conscience on pourrait en discuter, mais c'est frappant quand on réécoute cet extrait de Midnight Express. C'est frappant visuellement quand on revoit un film comme Angel Heart qui a innervé tout le jeu vidéo horrifique et en particulier une grande saga qui s'intitule Silent Hill. Et donc je pense que également c'est peut-être pas tant que la critique, on parlait d'intellectualisation et de critique française un peu plus tôt, c'est peut-être pas tant qu'elle ne l'a pas aimé que littéralement elle n'a pas vu exactement comment allait s'exercer cette influence. Et je pense qu'il y a toute une génération un petit peu après, qui elle a baigné en fait dans les motifs et dans les techniques également, les méthodes. Parce que ce qui est très intéressant, et toujours en termes d'immersion, et Parker il arrive à un moment où voilà, on disait, on est un petit peu avant la fin du nouvel Hollywood, et la violence est très stylisée chez lui, mais néanmoins elle n'est pas méta comme elle le sera quelques années plus tard chez un Tarantino. On est vraiment un peu à la croisée des chemins encore une fois là-dedans, et je pense que...
Ou un Cronenberg.
Oui, absolument, c'est parfaitement ça. Et du coup, oui, voilà, je pense qu'on se trompe forcément sur quel est son leg et quelle est sa manière de travailler si on ne pense pas à l'énorme influence qu'il aura eu, voilà, sur un autre médium qui devait advenir quelques années plus tard et prendre son essor, qui est le jeu vidéo. Et vraiment, l'extrait qu'on vient de réécouter était frappant en ce regard.
Je vous propose qu'on écoute un autre extrait, cette fois-ci de Mississippi Burning.
They want me to say, let us not forget the two white boys also died helping Negroes help themselves. They want me to say, we mourn with the mothers of these two white boys. But the state of Mississippi won't even allow these white boys to be buried in the same cemetery as this Negro boy. I say, I have no more love to give. I have only anger in my heart today, and I want you to be angry with me. I am sick and I am tired, and I want you to be sick and tired with me. I am sick and tired of going to the funerals of black men who have been murdered by white men. I am sick and tired of the people of this country who continue to allow these things to happen. What is an unalienable right if you are a Negro?
Pierre Charpieuse, on va peut-être recontextualiser cette scène. Hein. C'est la scène du prêche à la fin de Mississippi Burning, au moment où les corps ont été retrouvés. On va enterrer ces deux jeunes hommes blancs et ce jeune homme noir qui ont été tués par des membres du Ku Klux Klan.
Oui, on entend la musique là, de Trevor Jones aussi qui accompagne et qui, on a ce jeu émotionnel qu'on a évoqué sur les autres films qui est très présent aussi là. Ce qui est intéressant à souligner sur Mississippi Burning, c'est que Mayan en a parlé jusqu'à présent, on a l'impression effectivement que c'est un film très engagé, ce qu'il est, contre la ségrégation, mais c'est aussi un film assez drôle. C'est un vrai film divertissant, et ça c'est quelque chose que ne reniait pas du tout Alan Parker, c'est aussi ce qu'on lui a reproché. L'entertainment est très présent dans toute sa filmographie, y compris sur des films sur des sujets très sérieux comme Mississippi Burning. C'est un film où on a un duo de policiers, c'est un buddy cop movie, hein, comme tout un genre à part entière. Un
assez
duo,
mal assorti l'un à l'autre.
Exactement, qui fait beaucoup penser à Laurel et Hardy. On a un personnage comme ça qui est joué par Gene Hackman, qui est un personnage un peu bedonnant, qui a un franc-parler, qui a une certaine bagouille, qui vient du pays, qui est un Mississippien, qui retourne dans ce pays. À côté de ça, on a un autre personnage qui est Alan, qui est lui beaucoup plus sérieux, qui est timide, qui est mince, qui est aussi un jeune bleu qui vient de sortir d'école et en même temps qui est un peu le chef. Donc on a deux manières de travailler complètement différentes qui font finalement fonctionner, pas parce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Alan Parker dit pas du tout qu'il vaut mieux être un policier de terrain ou vaut mieux être un policier de bureau, mais c'est en travaillant entre un policier de terrain et un policier de bureau qu'on arrive à avoir de vrais résultats, et c'est un buddy cop movie pour le coup assez assez réussi dans son genre.
Alors la réflexion, pour prolonger cette réflexion sur la violence, là, la violence, si elle est montrée et si elle est montrée aussi longtemps, elle permet aussi de comprendre le mouvement insurrectionnel qui naît et le prêche qui monte en violence lui-même.
Oui, il y a une manière de montrer ce prêche qui quelque part nous prend et nous donne envie aussi de nous révolter d'une certaine manière, de la même manière que le Ku Klux Klan est très montré dans le film. Il y a des plans où on voit des croix brûlées, donc on a une manière aussi d'esthétiser la violence dans les deux sens qui fait qu'on est d'une certaine manière obligé de réagir, ou en tout cas qu'on se sent touché par cette histoire. Et ce qu'a envie Alan Parker, c'est de nous toucher d'abord, comme on l'a dit, émotionnellement, plutôt que de nous toucher intellectuellement. C'est après qu'on réfléchit.
Alors, dans ce passage des années 80, comment est-ce qu'il se distingue du reste du cinéma hollywoodien, Simon Rio? C'est vrai qu'on a à la fois le côté noir, film noir que l'on retrouve dans Angel Heart, par exemple, et en même temps, dans ses structures narratives, dans son côté focalisé sur un personnage, dans sa manière d'enfermer, même avec sa caméra, il y a un côté comme ça. Il y a une patte qui est très particulière, qui est très singulière à Alan Parker.
Moi qui ai une patte, où j'aurais tendance à dire, notamment dans la deuxième partie de sa carrière, c'est que c'est un cinéaste d'avant ce qu'on appelle le méta, d'avant ce clin d'œil un peu goguenard. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui est quand même très conscient de ses effets, qui travaille énormément de manière quasiment chirurgicale ses effets, mais qui n'est pas encore dans une espèce de... on pourrait dire de complicité un peu, oui, un peu goguenarde avec son spectateur, ce qui va arriver du côté de Joe Dante pour aller après ensuite chez Tarantino. Il est vraiment juste avant ça, et donc on a cette espèce d'absolue maîtrise technique. Moi, ce qui est frappant dans tous les extraits qu'on a réécoutés jusqu'à présent, c'est que j'ai quasiment trouvé dans chacun, on va dire, une signature, un effet de style très précis qui va aboutir après dans Angel Heart, qui pour moi est vraiment le... En termes de maîtrise technique et stylistique, ce qu'il a fait de plus accompli. On a entendu ce battement cardiaque qui sera présent très souvent dans Angel Heart. On a entendu là ce morceau de son, cette composition très lancinante pendant le prêche qui sera quasiment la même mélodie que la séquence finale de l'ascenseur descendant dans Angel Heart. Et c'est très très impressionnant de voir comme justement il a une espèce d'hyper conscience des effets. C'est pas un cinéma qui on va dire se laisserait la chance de voir un peu comment vont retomber les dés. Vraiment, il y a une maîtrise qui est très très impressionnante et qui pour
il
moi
travaille voilà. Sur ses signatures, il travaille sur ses signatures sonores. À chaque mouvement de violence dans Mississippi Burning, on retrouve le même gimmick musical. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans le cinéma hollywoodien de l'époque? Est-ce que c'est ce qui lui est propre? Est-ce que c'est son mélange européen aussi?
Mais absolument, j'ai l'impression voilà justement qu'il est dans une position finalement un petit peu d'avant-scène, un petit peu d'avant-garde. Peut-être pas tout à fait assez pour être perçu comme tel, juste assez pour, je dirais, de temps en temps développer quelques polémiques. On se souvient, vous l'évoquiez tout à l'heure, par exemple, Midnight Express a particulièrement saisi à son époque. Il a aussi questionné sur son rapport au réel et à l'adaptation d'une histoire vraie. Et j'ai le sentiment que le cinéma de Parker l'a placé dans une situation où il a souvent provoqué la réaction, mais peut-être pas dans une mesure, on va dire, qui l'obligeait à emporter notamment la presse et la critique avec lui. Et pour moi, c'est très frappant. Il est vraiment... juste avant cette période où le cinéma hollywoodien va devenir un petit peu postmoderne, et il amène, on va dire, il amène son cinéma et son style à un niveau d'incandescence dans la seconde moitié de sa carrière qui est assez frappant.
Alors Midnight Express, il faut qu'on revienne sur la polémique quand même qu'il y a eu, c'est important. Il a été accusé d'être un film un peu raciste dans la manière dont il présente les prisons turques, les personnages turcs. Simon Rio.
Tout à fait. Alors, disons que tout ça se base sur quelque chose qui est assez indiscutable. Et là, c'est que le film est l'adaptation d'une histoire vraie, mais n'entretient pas grand rapport avec le réel, ni avec la représentation des prisons turques, ni avec le détail de la procédure, surtout qu'il prétend adapter, ni même avec la personnalité et les actions menées par son personnage principal. Donc, à partir de là, si vous voulez, quand un film adapté d'une histoire vraie s'inquiète aussi peu du réel, on va dire, tout simplement, il peut être assez naturellement et facilement taxé de racisme. Le film d'ailleurs engendré des excuses et pas mal de déclarations des personnes impliquées expliquant que oui, voilà, c'était effectivement pas terrible. Je me demande s'il faut pas y voir néanmoins plutôt qu'une xénophobie primaire, latente, ou une forme de racisme.
Ou une censure, on pourrait dire à l'inverse, puisque c'est quand même un rapport à la fiction. Même si c'est part d'une histoire vraie, c'est pas son travail que de faire du documentaire.
Non seulement c'est pas son travail, et puis surtout, je pense que là-dedans, à ce moment-là, il appréhende la Turquie, ou on va dire l'histoire vraie, exactement comme à d'autres moments de sa carrière, il va appréhender les États-Unis. C'est-à-dire que c'est une idée, c'est un concept, et en fait, sans doute qu'Alan Parker est très dépassé à ce moment-là par la promotion du film et par le fait que le film va être vendu comme des sensations fortes basées sur une aventure, sur une histoire réelle, mais lui est vraiment là, justement, on le disait tout à l'heure, il parle de moralité de la loi et il n'est pas là pour parler de la Turquie, en fait. Il n'est pas là pour essayer d'ouvrir les consciences sur ce qui se passe en Turquie. Je ne sais pas s'il est particulièrement renseigné sur la chose. En revanche, il se dit cette histoire est une matière première, un espèce de matériau fissible merveilleux pour dire qu'est-ce que c'est que la morale, qu'est-ce que c'est que la moralité, qu'est-ce que c'est que la loi, qu'est-ce que c'est que le légalisme, et est-ce que le bien et le mal ont leur place là-dedans. Et c'est comme ça qu'il utilise ce sujet.
Marc Mouquin, vous acquiescez. C'est ce que dit votre voisin, je vois. Vous êtes d'accord avec cette idée?
Absolument, parce que Simon vient de dire très justement, il vient de placer les mots bien et mal, et ça peut paraître un peu évident à dire, parce qu'évidemment, quel cinéaste ou quel même n'importe objet de narration n'aborde pas à un moment ou à un autre le bien et le mal. Mais chez Alan Parker, il y a une dimension de ça qui est extrêmement exacerbée dans ses films, parce que, bon, déjà, ce sont... En tout cas, dans ce qui concerne les films qui ne sont pas des comédies musicales, encore que c'est à réfléchir pour la comédie musicale, mais donc souvent des films qui vont mettre en place une société ou un système, une personne à l'intérieur de ce système qui, d'une manière ou d'une autre, va essayer de s'en extirper. De manière très bête, on va dire que c'est tout simplement le héros de Midnight Express qui veut s'extirper du système carcéral turc, ou dans un autre genre. En parlant de création de système, on pourrait aussi dire que les enfants de Bugsy Malone recréent, imitent le système des adultes. Mais bref, tout ça pour dire que chez Alan Parker, la notion de bien, de mal, il y a souvent aussi presque un côté biblique. Le bien est fondamentalement bien, bon. Par exemple, le personnage de Willem Dafoe dans Mississippi Burning est fondamentalement bon. Il y a quasiment rien chez lui qui rend le personnage ambigu. Il y a rien chez lui qui le fait douter dans sa quête. À plusieurs moments dans le film, il se demande d'où vient toute cette haine, pourquoi ces gens sont si méchants. Et c'est un personnage en fait profondément naïf, comme s'il y avait un peu ce cliché du personnage qui descend du ciel pour régler ses problèmes sur Terre.
Alors vous dites ça, mais c'est une bonne remarque, parce que c'est quand même, il y a une dimension très mystique aussi dans son cinéma. Je dirais pas religieuse, mais en tout cas vous parlez des influences bibliques.
Ah bah Angel Heart.
Voilà, il y a aussi la magie du Sud qui intervient, la sorcellerie. Avec des côtés d'ailleurs terrifiants.
Oui,
bah, avec le diable qui revient aussi dans Angel Heart.
Bah absolument. Et puis bon, ça c'est, on va dire, c'est un point commun avec Ridley Scott. C'est le côté, voilà, on aime la mythologie entre guillemets judéo-chrétienne. On va jouer avec, on va l'inclure dans une sorte entre guillemets de cinéma de genre avec plus ou moins de subtilité si on veut. Mais voilà. Et surtout, c'est quelqu'un qui aime aussi pas tous ses films, mais une partie, prendre vraiment la température d'un milieu très singulier. Le Sud dans Mississippi Burning, le Sud encore dans Angel Heart, ou si on veut, alors ce monde du sanatorium, dans un film que j'affectionne beaucoup et qui est, entre guillemets, pas très aimé, ce monde du sanatorium bizarroïde du début du XXe siècle qui est dans The Road to Wellville, et je n'ai plus le titre français, je crois que c'est Au bon soin du docteur Kellogg's,
oui,
avec, voilà, qui est une sorte de bizarrerie des années 90 où il y a une galerie de personnages assez ubuesques, une sorte de genre un peu bâtard qui est la comédie dramatique. Bref, Alan Parker qui vient prendre la température là-dedans et ainsi de suite, où on en revient encore à Bugsy Malone, bref, température des années 30, ou cet autre film qu'il a fait sur les années 30, et pareil, le titre m'échappe, je prends mes petites notes, tac tac tac.
Mais puisque vous parlez de Bugsy Malone, je vous propose quand même qu'on en écoute un extrait, parce que c'est son premier film.
France Culture, La Grande Table d'été, par Maëlys Bessery. He's a sinner, candy-coated,
For all his friends, he always seems to be alone. But they love him, Bugsy Malone. A city slicker, he can charm you with a smile and a style all his own. Everybody loves that man, Bugsy Malone. Hard-headed Bugsy makes his mind up. Don't mess with Bugsy or you'll wind up wishing you'd left well enough alone. When he leave you a sad and lonely crying, I couldn't say, but it's known that everybody wants that man, Bugsy Malone.
C'était la musique de Bugsy Malone qu'on entendait. Quelques mots sur ce film, le premier film d'Alan Parker.
Exactement.
Avec les enfants.
Bah voilà, donc en fait c'est l'histoire toute bête et c'est le fantasme que tout le monde a vécu à un moment ou à un autre gamin. C'est-à-dire que s'il y avait qu'une société d'enfants, hein, enfin d'enfants de, entre guillemets, enfants slash pré-ado, parce qu'ils sont entre 12 et 15-16 ans dans le film, et avec l'incroyable Jodie Foster qui à ce moment-là venait de sortir de Taxi Driver ou faisait à peu près Taxi Driver en même temps. Et ce qui est formidable dans ce film-là, en fait, c'est que beaucoup de cinéastes, peut-être même particulièrement aujourd'hui, auraient fait de ce film une sorte de parodie, potage, des films de gangsters des années 30. Et Alan Parker, non. C'est-à-dire que il fait un vrai film de gangsters, certes qui est drôle, mais qui est jamais...
Il fait un pastiche de gangster.
Oui, mais c'est un pastiche qui est pourtant fondamentalement tourné au premier degré. Mmh. Il change les emblèmes un peu cultes du genre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la traditionnelle fusillade avec les mitrailleuses, on a une bataille de tartes. Mais ça reste un film fondamentalement tourné au premier degré. C'est ça que je voulais dire. Et on en revient encore au côté cinéaste premier degré. Mais, et ça, c'est quelque chose que je trouve, en fait, très émouvant. En plus, voilà, il croit totalement dans son univers. En même temps, il essaye d'en faire un truc à mi-chemin, parce que c'est des personnages qui, comment dire, les enfants interprètent des personnages qui sont un peu ambigus moralement. On en revient encore à l'histoire de morale, parce qu'il y a des gamins évidemment qui représentent dans ce film le mal, d'autres qui représentent le bien, les héros. Il y a le personnage de Jodie Foster qui est très ambigu, et pareil, bon, c'est aujourd'hui peut-être un film qui, si, je crois qu'il était ressorti il y a quelques années, mais c'est un film qui aussi pourrait susciter des polémiques, parce que c'est un film qui aussi sexualise par exemple ses personnages. Donc en ça, ça en fait un film profondément, de nouveau un film à débat comme Midnight Express si on veut. Bref, ça reste un film absolument formidable. Et pour la petite anecdote, c'est un film qui avait été produit par David Putnam. Et David Putnam, c'était quelqu'un qu'il avait rencontré à l'époque où il travaillait dans la publicité et qui est resté vraiment quelqu'un qui a suivi toute sa vie, qui est encore vivant aujourd'hui et qui est un producteur britannique. Hein, on lui doit aussi Les Chariots de Feu. Et bref, voilà. Donc c'est aussi, il y a aussi ce côté collaboration importante.
Est-ce qu'on peut pas dire, Pierre Charpillon, que dans son rapport à la sexualité, ça vient d'être évoqué, à la mort, à la folie, c'est un réalisateur extrêmement libre et audacieux pour un réalisateur hollywoodien.
Il est libre, il est audacieux, il est aussi profondément de son temps. Enfin, je sais pas, on a beaucoup dit que c'est un réalisateur qui est avant-gardiste. Moi, je pense surtout que c'est un réalisateur qui est vraiment profondément de son époque et qui comprend de manière très juste ce que c'est que son époque. Là, par exemple, on a entendu la musique, qui est la musique de Paul Williams. Paul Williams qui représente, hein, cette voix des années 70, musique de Phantom of the Paradise quelques années auparavant. Il fera la musique de Star is Born un tout petit peu plus tard. Dans son travail dans Fame, par exemple, Fame, on dit souvent, c'est la comédie musicale culte des années 80. C'est un film qui sort en 1980. Donc, dès 1980, il comprend tout de suite ce que vont être les années 80. Donc, dans la manière dont tout ce qu'il représente, ce qui l'intéresse, c'est son époque et l'utilisation qu'il a aussi des technologies. Je pense, par exemple, dans Birdie, il y a une scène où on voit le personnage voler, enfin, s'imaginer qui s'envole. Une scène qui a utilisé une technologie de caméra tout à fait moderne pour l'époque, enfin, d'utilisation d'appareil de caméra qui s'appelle la Flycam, qui permet comme ça de voir on a l'impression en vue subjective qu'on vole comme un oiseau. Pour le spectateur de l'époque, c'était tout à fait novateur. On n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, à l'époque des drones, et on a eu plein d'autres films tournés en flycam, ça n'a rien de sensationnel. Et c'est peut-être aussi pour ça que les films parfois vieillissent un peu mal, alors qu'ils sont voilà, tout à fait
révolutionnaires
quand on
oui,
les voit,
sûr.
Mais c'est exactement quelque chose de son époque. C'est quelqu'un qui comprend parfaitement son époque.
On va parler de la musique de Fame, on va écouter une scène musicale. On voit qu'il va énormément voyager aussi entre les musiques. La musique, on voit qu'elle est à la fois inspiratrice, qu'elle est très importante, la bande sonore du film, outre la question musicale, la question rythmique aussi qui revient comme une sorte, avec des thèmes aussi qui reviennent énormément. Il y a un voyage musical qui est très vaste entre les années 30, les années 80. Il va y avoir une période quasi un peu électro, en tout cas mélangée de la musique électro. Cette musique-là, elle n'existe pas que dans les films musicaux, justement, Pierre Chapillot.
Oui, dans Fame, c'est assez drôle parce que Fame, le devenu un tube après, Irene Cara qui. Un tube disco. Et justement, le disco, c'est ce dont avait peur en début Alan Parker quand on lui a proposé de travailler avec Giorgio Moroder sur Midnight Express. Parce que Giorgio Moroder, à l'époque, c'était les collaborations avec Donna Summers, c'était des tubes disco. Et ça semblait un peu surprenant d'avoir ce Love to Love You dans une prison turque. Lui pensait plutôt travailler avec Vangelis à l'époque, déjà de la musique électronique. Donc, un intérêt assez tôt. Pas non plus trop tôt, c'est pas quelqu'un qui découvre la musique électronique avant tout le monde, hein. C'est un moment où la musique électronique émerge, mais c'est vrai que ça donnera, quand Giorgio Moroder composera cette musique, on en a entendu une virgule sonore dans l'extrait qu'on a eu tout à l'heure, puis Chase qui est devenu un tube, pour le coup on voit clairement les influences disco dans Chase, qui est d'ailleurs assez drôle, et ce sera la première musique électronique à obtenir un Oscar, donc il n'est pas novateur, mais il est le premier. C'est ça qui est assez intéressant.
Et surtout il fait quand même un grand écart avec la musique de Bugsy Malone par exemple. Il va s'amuser à...
Il suit son époque. Enfin, moi, je trouve qu'il suit son époque. Certes, la musique de Bugsy Malone est une musique qui rend hommage à celle des années 30. C'est aussi une musique des années 70. Ça ressemble pas à une musique des années 30. Ça ressemble à une musique des années 70. Ça ressemble à du Paul Williams. Et d'ailleurs, dans Bugsy Malone, Ordinary Fool, qui est un des morceaux, sera repris par The Carpenters. Ça sera une musique qui est pas un tube, mais qui est une musique qui fait partie de la chanson américaine, qui est un vrai morceau pop important.
Marc Moquin, on retrouve justement l'influence aussi peut-être publicitaire dans sa manière de s'intéresser à la musique et aux clips. Hein, il va y avoir les Pink Floyd The Wall.
Bah voilà, il y a ce fameux film musical
très étrange.
Qui est d'un côté très étrange, de l'autre côté matriciel, parce que qui s'intéresse à la musique et au cinéma et n'a pas vu The Wall. Bon, si vous n'avez pas vu, voyez-le. Mais il faut en plus imaginer que The Wall, qui avait été au Festival de Cannes en 82, Alan Parker avait quand même deux films au Festival de Cannes en 1982. D'un côté, il y avait ce très beau Shoot the Star, je sais plus si c'est le titre exact, je retrouve pas, mais ce très beau film avec Albert Finney et Diane Keaton, un couple qui se désagrège, qui était en compétition officielle.
Shoot the Moon.
Incroyable film qui est presque à rebours de tout ce qu'on, à la fois à rebours de tout ce qu'on vient de dire et en même temps non, c'est encore un film où il y a le bien, le mal. Parce qu'évidemment, c'est des choses qui sont invoquées par la séparation du couple, mais là, tout est beaucoup plus grisé. Bref, il y a ce film-là en compétition officielle, et en hors-compète, il y a The Wall. Et c'est un film qui arrive, donc, comme vous l'avez dit, en pleine explosion du clip, à côté, à quelques années près, et par exemple, c'est là où on verra l'émergence de Thriller, le fameux clip de Michael Jackson réalisé par John Landis.
Et donc, il y a un art du clip qui se développe aussi à cette période-là.
Qui est lié à la télévision. Bref, tout ça, en fait, qui va créer une période de grâce pour lui. Je pense que, mais corrigez-moi si je me trompe, qu'autour de cette table, on sera d'accord pour dire que son âge d'or est plutôt dans les années 80. Mais voilà, et donc on en revient quand même à la télé. Et le clip a cette similarité avec la publicité que on raconte avant tout par l'image. Certes, il y a une bande son dans le clip, mais on raconte avant tout par l'image. Il n'y a pas de dialogue, ou alors s'il y a des dialogues, c'est rare, ou alors ils sont inclus dans la musique. Mais voilà, il y a cette porosité avec la publicité. Le clip est extrêmement visuel. Le clip est tourné souvent en 4/3, comme c'était les cas de pub de l'époque. Bon, ça, c'est pas un format qui est repris dans les films, mais par contre, il y a des compositions de cadres et donc un savoir-faire de cadres qu'on est obligé d'avoir dans ce format-là à l'époque, qui ensuite va irriguer intrigué quand il va faire un film comme Pink Floyd ou The Wall, pardon, où chaque tableau, que ce soit ce qui est fait en live ou ce qui est fait en animation, est absolument dingue, a irrigué une culture populaire qui est encore aujourd'hui omniprésente, et c'est encore des images qu'utilise à chaque fois, comment dire, Roger Waters, à chaque fois qu'il passe en concert, il y a de nouveau l'imagerie du film d'Alan Parker qui est là. Bref, voilà. Et pour rebondir juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, oui, c'est quelqu'un qui, justement, a tellement bien pris, je pense, la température de son temps dans les années 80. Il a tellement été en phase avec ces années 80 que, selon moi, en fait, c'est presque normal que sa décennie suivante, les années 90, qui n'est pas inintéressante, hein, on a mentionné quelques films, il y a aussi Evita avec Madonna, qui est un film loin d'être inintéressant, mais peut-être un peu en deçà, et qu'ensuite, quand il fait son dernier film, La vie de David Gale, c'est un film qui s'est un peu trompé de décennie, non pas par rapport à son sujet, c'est un film de peine de mort à une époque où les États-Unis, qui parle de peine de mort à une époque où
les États-Unis, Bush.
Voilà, la pratique encore, mais par contre, c'est un film qui, dans ses effets, dans sa narration, dans sa direction d'acteur, c'est un film qui s'est trompé de décennie. Et d'ailleurs, c'est le film sur lequel il va arrêter sa carrière, un peu dégoûté par le fonctionnement du système. Mais voilà, tout ça pour rebondir sur le fait que oui, il a été incroyablement en phase sur la partie publicité, la partie clip, la partie narration, etc. Peut-être trop, et du coup, c'est ce qui a rendu sa carrière incroyablement belle, concentré sur voilà, une décennie magnifique. Quoi.
On va écouter une autre archive d'Alan Parker, c'était pour le British Film Institute le 26 avril 2018.
I've written so many scenes over the years based on one photograph. I did that on Mississippi Burning and I did that on this film, but and then Come See the Paradise in particular. But more a photograph is the thing that a period photograph can do so much for me. From one photograph I can write an entire scene.
Alors il parle de son influence de la photographie, de l'influence de la photographie sur ses films, qu'à partir de la photographie, il a pu faire des scènes entières de films. C'est notamment le cas dans Angel Heart. On va revenir sur ce film, Simon Rio, Angel Heart, qui est un peu le film préféré des cinéphiles de Alan Parker, pour bien des raisons. Premièrement, parce qu'il y a tout Alan Parker dans ce film.
Absolument, c'est un espèce de condensé, c'est une boucle qui s'achève, c'est-à-dire qu'on retrouve, on le disait un petit peu tout à l'heure, tous les effets de style qui l'amènent là à un niveau de maîtrise et de perfection qui sont très très impressionnants, tous les effets de style qui sont devenus des motifs puis des signatures et qui pour autant ne virent jamais au tic. C'est-à-dire que c'est un film qui est indiscutablement un film de formaliste, mais qui
n'est
jamais
maniéré. On va peut-être donner des éléments pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu.
Alors tout simplement, il s'agit, et là aussi, ça fait sens quand on pense à cette carrière et à ce réalisateur, c'est l'histoire dans les années 30, donc d'un détective
40 privé, dans 40, les années 40,
1943, bien sûr, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Mickey Rourke qui incarne ce personnage.
Mickey Rourke, détective privé, se voit confié par un mystérieux ayant droit, se voit confié de retrouver un musicien qui aurait disparu, un musicien qui est parti au front en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui aurait disparu, d'après ce mystérieux ayant droit interprété par Robert De Niro, pour échapper tout simplement aux sous qu'il doit verser. Et donc Mickey Rourke va commencer à suivre ce mystérieux individu. Et ce récit, c'est un pacte faustien dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que Mickey Rourke poursuit un type dont on comprend finalement que l'identité s'est filoche. Au fur et à mesure de cette quête, sa propre identité est questionnée et finalement ça nous rappelle quand même qu'on est en train de regarder un des plus grands films d'un réalisateur dont on aura eu du mal à voir derrière ces films, c'est-à-dire que beaucoup ont marqué, ils ont marqué plusieurs générations, il y a énormément de spectateurs qui ont été bouleversés par ces créations et pourtant on a rarement appréhendé ces films comme un corpus et lui comme un auteur à part entière.
Alors pour plein de raisons, hein. Premièrement, il a assez peu parlé dans la presse, c'est un peu les contre-exemples qu'on entend là, il était relativement discret, et puis il y a ces pans différents, hein. La musique d'un côté, le cinéma plus noir et plus politique de l'autre.
Tout à fait.
C'est peut-être ces raisons-là, ce côté jugé comme disparate à une période peut-être...
Jugé comme disparate, tout à fait, et puis comme c'est très intéressant, là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il dit en gros, moi, à partir d'une seule image, trouvez-moi une belle photographie et je peux vous raconter une histoire avec.
Et ça, c'est quand même un artiste visuel très fort. Faut peut-être revenir sur cette question-là. Angel Heart, elle traite une question.
Et ben, on pourrait quasiment dire que c'est quasiment le principe narratif d'Angel Heart, vu que le film va être traversé d'hallucinations qui sont vécues par le personnage principal et tout au long du film, ces hallucinations vont s'étayer. Ces passages suspendus vont devenir de plus en plus complexes et puis finalement de plus en plus parlants jusqu'à révéler au spectateur, on va dire, le fond de l'histoire. Et littéralement, on a l'impression que le récit est déroulé à partir d'une image unique. Cette image unique, c'est, il y en a deux qui innervent toute la narration. C'est l'image d'un ventilateur un peu rouillé commençant lentement à tourner. Et sinon, c'est l'image d'une silhouette attendant qu'arrive une cage d'ascenseur. Ce sont deux images qui sont en fait extrêmement sensorielles, qui ne racontent pas quelque chose en tant que tel, qui ne peuvent peuvent être que des vecteurs de symboles, d'émotions. Et en fait, tout le scénario, toute la mise en scène, le découpage et le montage de Parker vont travailler à donner du sens à ces images. On va d'abord passer par de l'émotion pure. Ce sont des couches musicales et sonores qui vont s'y ajouter, qui vont, on va dire, leur donner une couleur, qui vont faire qu'elles vont être plus ou moins inquiétantes, dissonantes. Et puis, le scénario va se charger de les charger, justement, en émotion, jusqu'à la séquence finale, les 10 dernières minutes du film, qui sont un espèce de montage alterné entre ces séquences hallucinées qui sont complètement dépliées et les derniers instants de narration au présent, où on suit le personnage de Mickey Rourke qui fait face, on va dire, aux conséquences de tous ces actes pendant le film et bien avant. Et effectivement, on pourrait dire que ce que vient de dire Alan Parker, à savoir « donnez-moi une image, je peux vous raconter une histoire avec », c'en est la démonstration évidente.
Ce que l'on entendait aussi, Pierre Charpieu, c'est son intérêt à lui, à la fois pour la littérature, c'est ce qu'il dit dans la première archive. Là aussi, Angel Heart est une adaptation d'un roman. Et son intérêt pour la photographie, on voit que c'est un artiste relativement complet. Il fait appel, on disait, aux émotions, mais c'est même au sens auquel il fait appel en tant que cinéaste.
Oui, et pour ça, on peut aussi parler de la musique. Et Evita est un exemple assez fort. C'est un film qui suit l'histoire d'Eva Perón, première dame d'Argentine. Une personnalité très importante pour l'histoire du péronisme et pour l'histoire de l'Argentine, parce que voilà, une des personnalités les plus importantes du pays. Et c'est une comédie musicale presque à la demi, dans laquelle on chante du début à la fin avec Madonna et Antonio Banderas. Alors quand on explique ça comme ça peut paraître très surprenant et très étrange comme film, et pourtant, malgré tout, ça fonctionne. On a vraiment toute une histoire de la vie tout à fait romanesque de cette Eva Perón, de manière absolument passionnante et assez réaliste finalement, même si on accepte le jeu avec la musique et le chant. Finalement, c'est une évocation assez réaliste. Et on a comme ça le personnage qui commence un peu, on dirait Barbara Stanwyck dans Babyface, qui commence à séduire différentes personnes, personnage d'Eva, pour avoir sa place, une place importante à Buenos Aires et finalement devenir la première dame de l'Argentine. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un film qui est assez hagiographique sur Eva Perón. Et pourtant, en Argentine, on lui a reproché, de montrer un personnage finalement assez égoïste, en tout cas au début. Donc d'un côté, en Europe, aux États-Unis, on lui a reproché de faire un portrait tout à fait hagiographique d'Eva Perón, et de l'autre côté, en Argentine, on lui a reproché de faire un portrait un peu trop caricatural d'Eva Perón. Donc comme quoi, ça résume assez bien, je pense, Alan Parker.
Il y a peut-être un élément sur lequel il faut aussi insister, Simon Rio, c'est la force des personnages. Les personnages qui sont toujours à la limite de la folie, voire plus à la limite du tout, d'ailleurs. Et c'est quand même sur cette crête qu'il se situe, Alan Parker, pour parler des questions, des grandes questions humaines. C'est toujours à ce point de bascule-là.
Oui, et puis il y a quelque chose qui est frappant en revoyant certains de ses films et en revoyant des passages de certains autres pour préparer cette émission, c'est à quel point il y a toujours une logique une tension du basculement dans son cinéma, et du basculement pas uniquement, on va dire, d'une situation matérielle, concrète, pas uniquement comme dans Midnight Express, où on va dire il y a une menace existentielle humaine, mais il y a aussi un basculement qui est de l'ordre de l'identité. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, ou alors qu'est-ce que ça va faire, et qu'est-ce que ça provoque aussi chez le spectateur. On parlait tout à l'heure de Bugsy Malone, justement, il y a plein de questions sur le bien, sur le mal, mais aussi sur la ségrégation et toutes les tensions raciales aux États-Unis, qui sont exacerbées chez le spectateur par un procédé tout bête, c'est le fait que ce soit joué par des enfants. Et ça change tout. Et en fait, il n'y a pas un seul de ces films dans lesquels on ne retrouve pas à un moment un profond sens du vertige, mais parce qu'effectivement, ces personnages sont à la fois mus par des enjeux, des conflits, des désirs extrêmement simple. Dans Angel Heart, c'est Mickey Rourke qui veut absolument mener à bien son enquête parce que ça va lui faire gagner de l'argent, et en même temps, à chaque pas où il avance, il se rapproche plus d'un danger absolument terrible et il doute de plus en plus de qui il est. Et en fait, ces espèces de conflits organiques très durs, ils sont dans tous ces films.
Cette question de l'ennemi qui en réalité est interne la plupart du temps. Marc Moka, est-ce que tout est en puissance finalement dans ce film Bugsy Malone, le tout premier, cette idée du mal externe ou interne, cette idée, l'importance de la musique aussi, mais aussi du pastiche très fort chez Alan Parker.
Exactement. Ça fait partie de ces premiers films où plus on les regarde et plus on voit les autres films de la carrière du metteur en scène, ça fait partie de ces films où on se rend compte que oui, tout était là déjà, même si ensuite il a opéré dans des genres fondamentalement différents, mais tout était là déjà dans son film. C'est aussi un film, alors je me souviens plus si on l'a dit, mais c'est aussi un film indépendamment de la musique, c'est un film qui est très beau visuellement, qui est très soigné dans sa reconstitution. C'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de dire qu'en fait, il y avait un côté premier degré, il n'y avait pas un côté on fait un pastiche, une comédie mal éclairée, et on met des gamins dedans, comme on l'a déjà vu depuis. Il y a des films qui ont repris un peu cette idée-là, enfin, au moins un qui est Big City, par exemple, mais qu'un film français. Mais voilà, et donc il y a cette envie de faire ça. Donc, et on en revient aussi au...
Et le mot de la fin est le mot de la fin.
On en revient aussi au fait que ça soit un cinéaste qui a la croisée des arts, exactement, et je reviens là-dessus, comme Ridley Scott, photographie, il dessinait aussi, c'était quelqu'un qui dessinait, qui faisait des aquarelles, bref, un cinéaste total.
Et que vous allez pouvoir redécouvrir. Merci à tous les trois, Pierre Charpillot, Simon Rio et Marc Moquin. Le numéro de l'été, revu et corrigé, s'intitule « Sexe dans l'histoire du cinéma ». Je vous renvoie également à la lecture de Bande à part et bien sûr d'Écran large. Tout de suite, c'est la fiction « Imagine le monde de demain ».
On n'est pas près de l'avoir, ce vaccin. Mais les médias continuent de nous raconter que il n'y a plus de virus, c'est fini, tout est comme avant, sortez de chez vous. On a peur les uns des autres, on n'ose plus se toucher ou se prendre dans nos bras. On s'est enfermé à double tour, et la clé est dans nos têtes. Et ça, faut en sortir. Sinon, à un moment, ça va exploser.
Loin, une fiction écrite par Selim Azazi.
Qu'est-ce qu'elle fait ?
Dans le cabanon ! Dans le cabanon ! Voilà. Merci. Au revoir.
Et qu'est-ce qu'elle veut ?
Il faut signer !
Hein ?
Le reçu !
Mais non ! Non, il n'y a pas besoin.
Vous devez signer, monsieur.
Oh, c'est pas vrai.
Non, on ne signe pas. Pas besoin.
Je suis désolée. Je peux pas vous laisser la livraison, sinon.
Ok. J'arrive.
C'est pas vrai, bordel.
Posez votre truc là.
Bonjour. Bon, je signe où ? Là ? Ah, bougez pas !
Je suis désolée, on n'avait plus de lait. On l'a décompté.
Mais ça va, c'est pas grave. Vous avez mis au froid ?
Au frigo. Et le reste sur l'établi.
Ok. Je pose là.
Au revoir.
Allez, au revoir. Oui.
Vieux, là ?
Oui, je t'entends très bien. Qu'est-ce qu'il y a ?
Ça va ?
Oui, ça va.
C'était bizarre, là.
Mais non, ça va.
Alors, on fait quoi pour Noël ?
Bon, Noël.
T'as rien écouté, en fait ?
Non, mais si. C'est la livraison ce matin. Ça m'a contrarié.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Ben, je laisse le cabanon ouvert pour qu'il mette les courses. Comme ça, j'ai pas de contact avec les livreurs. Et ce matin, elle les a déposées, comme d'habitude, mais elle restait plantée là, elle partait plus.
Ah bon ?
Et il attendait que je sorte pour signer.
Signer quoi ?
Le reçu ! Elle voulait que je sorte de la maison pour signer.
Le reçu ?
Oui.
Et t'as fait quoi ?
J'ai pas eu le choix, elle allait tout rembarquer sinon. Je suis sorti.
T'as bien fait.
Si je tombe malade, ce sera de sa faute. Tu te rends compte ? Choisir entre mourir de faim ou du virus ?
T'exagères.
Non, j'exagère pas.
T'es pas en train de mourir non plus.
Je suis à risque, moi, je suis vieux. Voilà. Ton père est vieux, c'est comme ça.
Tu veux que je vienne ?
Pourquoi ?
Moi, je viens te les faire, les courses.
Mais non, c'est pas la peine.
Je te les dépose dans le cabanon.
Mais non, tu vas pas faire 300 km, c'est ridicule.
Je dis ça pour t'aider, mais si c'est pas un problème, on n'en parle plus.
Oui, c'est gentil. T'inquiète pas.
Donc, pour Noël ?
Quoi, Noël ?
Est-ce que tu viens ?
Où ?
Ben, à la maison.
Là ? C'est Noël ?
Oui, là.
Je sais pas, moi. On n'est pas aux pièces, quand même.
C'est dans un mois.
Ah non, un mois et demi.
Papa, on est le 26. C'est moins d'un mois.
Déjà ?
Ça fera plaisir. plaisir aux enfants de voir papy.
Chez vous?
Ben oui. Ça fait combien de temps qu'on t'a pas vu?
On se voit tout le temps.
Non mais en vrai, pas sur un écran.
On se voit très bien à distance.
Papa, ça fait 2 ans, voilà, depuis le virus. Et à mon avis, en 2 ans, t'es pas beaucoup sorti.
Je suis tout le temps dehors, dans le jardin.
Je parle de sortir voir des gens en vrai.
Mais non! J'ai pas besoin de ça. Si c'est pour parler avec un masque derrière un plexiglas, franchement...
Hein. Arrête, c'est fini, y a plus de masque et de plexiglas.
Chez nous, si.
Mais t'en sais rien, tu sors pas. Est-ce que tu veux faire Noël avec nous ou pas? Moi, ça m'est égal. Tu viens pas. Qu'est-ce que je dis aux enfants?
Bon, ok. Dis-leur, si tout va bien, hein, je viendrai. D'accord? Posé sur la table. Là, sous la lampe. Reculez.
C'est quoi?
Ça désinfecte.
C'est dangereux?
Mais non.
C'est bizarre le bruit.
Vous inquiétez pas. Je laisse là. Au revoir.
Au revoir.
Et donc, elle est revenue, figure-toi.
Hein?
Oui, mais là, j'ai pris mes précautions. Hein.
C'est-à-dire?
Mais j'ai fait tout un système.
J'ai mis
une lampe UV.
Une lampe UV?
Oui, dehors. Comme ça, elle pose son truc dessous. Je mets la lampe 10 secondes. Ça tue les virus.
C'est dangereux?
Non.
Tu fais gaffe?
Bien sûr.
Tu t'exposes pas aux UV?
Mais non. Non.
C'est sûr?
Oui.
Ça fait des cancers, les UV, des cancers de la peau.
Mais je fais attention, t'inquiète pas.
T'as pas dit pour Noël?
Quoi?
Tu viens quand pour qu'on s'organise?
Je sais pas encore.
Ouais, c'est dans 5 jours.
Hein?
Alors?
Je sais pas si je serai en état.
Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade?
Peut-être.
T'as de la fièvre?
Oui, enfin, non.
T'as quoi?
Je me sens... pas net, tu vois?
T'as vu le docteur?
Oui. J'ai fait une consultation en ligne.
Il dit quoi?
C'est pas clair, il a dit... Ça a l'air d'aller.
Ça a l'air d'aller?
Oui.
Donc ça va?
A priori, oui, ça a l'air.
Je comprends pas, comment a priori? C'est lui qui a dit a priori?
Non, ça c'est moi.
Donc pour le docteur, ça va?
Oui, mais on sait pas, je peux être porteur quand même.
Attends, papa, porteur de quoi?
Du virus.
Il y a plus de virus, arrête avec ça.
T'en sais rien?
Je sais. En plus, tu vois jamais personne et tu mets des UV partout. Tu veux attraper quel virus?
Faut être prudent. On sait jamais. Allô?
J'ai dit aux enfants que tu venais.
Je peux pas.
T'as promis?
Non. J'ai dit si tout va bien.
Bon, d'accord.
Mais là, je le sens pas.
Comme ça, c'est clair, t'as raison.
Je préfère, voilà.
On n'est pas obligé de se voir.
Mais on le fera l'année prochaine.
On n'est pas obligé de se parler non plus.
Oh, arrête.
Oh,
tout de suite, avec toi, c'est...
Quoi?
La tragédie.
Avec moi?
T'exagères tout.
C'est moi qui exagère?
Je me connais, je sais bien ce qui est bien pour moi, quand même.
Mais t'as raison, pense à toi.
J'ai quand même bien droit.
Bien sûr, on a l'habitude avec toi, de toute façon. Les petits aussi, ils ont compris.
Mais qu'est-ce qu'ils ont compris?
À qui ils avaient affaire?
qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, ça? C'est nul.
Ouais.
J'en ai ras-le-bol de ce ton que tu prends.
C'est réciproque.
C'est minable de mêler les enfants à ça. T'es minable.
Ok, merci papa, joyeux Noël, au revoir.
Premier Noël sans Covid-19, premier Noël sans cette peur qui nous a empoisonnés durant 2 ans. On ouvre les portes, on sort de chez soi, le virus a officiellement disparu. Symboliquement, ce premier Noël marque un certain retour à la normale. Les familles sont réunies, c'est tout un symbole.
Allô?
Bonjour, vous êtes sur ma messagerie. Je ne suis pas joignable, laissez un message.
Oui, c'est papa. Eh ben, j'espère que ça va. Bon, ben, j'appelais pour souhaiter un joyeux Noël aux enfants. Et à toi aussi. À vous. Là, j'imagine que vous êtes en plein préparatif. Avec le repas, les cadeaux, bon, tout ça. Écoute, je rappellerai. Je rappellerai. Je me rends compte que des fois, je vais être un peu bizarre, sûrement. Je sais pas. En tout cas, si j'ai donné l'impression de ne pas vouloir vous voir, c'était pas mon intention. Au contraire. Je voulais m'excuser. Voilà. D'un côté, j'ai envie, de l'autre, c'est plus fort que moi. Ça reste comme un truc. Je vois bien. Ça coince. J'ai peur. J'ai peur des gens, j'ai peur de sortir. Je peux plus. J'ai besoin de... Je m'en sors pas.
Vous avez atteint la limite de la durée d'enregistrement d'un message. Pour le réécouter, faites le 1. Pour le conserver, faites le 2. Pour le supprimer, faites le 3. Message supprimé.
Papa ?
Papa,
pardon.
T'inquiète pas.
J'ai peur.
C'est fini, papa.
J'ai peur.
C'est fini.
Loin, de Selim Azazi, réalisation Juliette Eman, générique à retrouver sur franceculture.fr.
Et vous retrouverez un prochain épisode de La Fiction Imagine demain. C'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. Aujourd'hui, Arsène Lupin.
Nous voici parvenus, le réalisateur Vincent Deck et moi-même, au 438e kilomètre de notre périple depuis les sources de la Seine, et nous sommes devant les ruines de l'abbaye de Jumièges. J'éprouve le plaisir amer de la nostalgie, puisque l'abbaye de Jumièges était pour moi mon premier voyage d'enfant. Vous savez, les voyages scolaires qu'on fait comme ça, je vais être en 6e ou en 5e, et je me souviens de l'éblouissement que j'ai éprouvé devant l'abbaye de Jumièges, et dont seules quelques photos Polaroid égarées dans un tiroir et passablement blanchies maintenant portent la trace. En descendant la Seine, on traverse des mondes très différents. Je m'en voudrais, surtout après cette mention de mes aventures scolaires, passer pour un aventurier. Mais enfin, il m'est arrivé de descendre le cours du Danube et le cours de la Volga, et même le cours de l'Irrawaddy en Birmanie. Et je n'ai jamais vu nulle part les paysages changer autant que le long des berges de la Seine. On dirait que le fleuve reste identique à lui-même, pendant que des machinistes géographes changent les décors. Plus haut, quand nous étions en Bourgogne, dans la Seine bourguignonne, vous vous en souvenez, c'était le décor de la Neustrie, le décor des forêts profondes, de l'opulence automnale et d'une énergie immobile. Ici, on trouve aussi des abbayes, comme en Bourgogne, l'extraordinaire abbaye de Fontenay, par exemple. Mais la religion paraît tout à fait différente, à cause peut-être de l'air de la mer, d'une sorte de fluidité, d'un courant qui vous emporte et qui est sensible même à Jumièges, dans les boucles de la Seine et assez loin de la mer, et aussi un étonnant parfum d'aventure. C'est donc le moment de parler de ce héros de notre jeunesse qui est resté celui de notre âge mûr et qui s'appelle Arsène Lupin. C'est à Jumièges qu'Arsène Lupin apparaît pour la première fois à la fin du 19e siècle et sous le nom de Raoul d'Andrézy, dans ce roman bien plus sombre que ceux qui suivront et qui s'appelle La Comtesse de Cagliostro. Lupin, le jeune Lupin, y tombe amoureux d'une fausse descendante de Joseph Balsamo, et l'amour de celle qui prétend traverser le temps le marquera d'une empreinte ineffaçable. Et après elle, comme influencé par elle, comme prenant sa manière d'être, Lupin deviendra le Balsamo de l'histoire de France et l'héritier des rois. Leur succédant dans la possession de cette cache incomparable, l'aiguille creuse au bord des falaises d'Étretat, et comme en leur nom protégeant la République meurtrie par l'amputation des provinces de l'Est, lui rendant un trésor évanoui dans le Triangle d'Or, et lui donnant les clés d'un empire africain conquis en secret dans les Dents du Tigre. Les Dents du Tigre, il y figure une sorte de lioté invisible, comme lui monarchiste, et pas seulement par un effet de ce snobisme si réjouissant par lequel tous les voleurs du monde se trouvent en quelque sorte anoblis. Dans l'un des textes où il commente la figure de son héros, Maurice Leblanc avoue que ce rôle si particulier de Lupin s'est révélé à lui-même pendant qu'il écrivait. Au début, Leblanc avait voulu seulement faire du Gaboriau, c'était inspiré du Vautrin de Balzac, bref, joué sur le papier aux gendarmes et aux voleurs, et puis était apparu, je le cite, « ce qui vient de nous, se forme en nous et nous est souvent une révélation à nous-mêmes ». Ici, l'unité du passé et du présent magnifiée par un Lupin joyeux et invulnérable malgré la mort des femmes aimées, éternellement affronté aux secrets, aux énigmes. Et si nous sommes si heureux d'être ici, c'est au fond parce que dans les aventures d'Arsène Lupin, tout au long de la Seine, que cette unité prend corps. La Seine, pour Leblanc, c'est le fleuve même de l'histoire de France. Les bateaux des Vikings la remontent, les péniches de Lupin, qui s'appellent le Ver Luisant ou la Nonchalante, la descendent vers le Havre, où l'attendent canots, yachts et même torpilleurs. Le torpilleur de l'île aux 30 cercueils, par exemple. Dans cette tension vers tous les départs, Lupin, au fond, ressemble à un autre héros que nous avons beaucoup aimé et qui est Monte Cristo, le Monte Cristo de la fin, celui qui s'en va. Mais c'est un Monte Cristo qui, loin d'éprouver l'amertume de la vengeance satisfaite, goûterait pour toujours la satisfaction d'un devoir accompli en dehors des lois. Lupin, c'est l'anarchiste chic, le don Juan rédimé, le patriote en fuite, l'épicurien à la discipline de fer, le français d'une improbable unité, divers et ondoyant, mais sur lequel on peut compter, surtout lorsqu'on est un enfant, et même plus tard. C'est donc ici qu'il apparaît. Tout jeune encore, fiancé à Clarisse Détigue, fils naturel d'un professeur de boxe et d'une jeune aristocrate séduite et abandonnée, et qu'au chapitre 13, évidemment, de la comtesse de Cagliostro, il s'approprie à force d'ingéniosité le trésor des moines des sept abbayes normandes, caché sous une borne de pierre, la pierre de la reine, dont l'emplacement lui est donné par le curé de Jumièges rencontré par hasard sur la route. Une étoile, en pleine nuit, montre le chemin à cet étrange roi mage de l'anarchie, je cite, « l'étoile fatidique qui correspondait dans l'immensité de l'espace au petit bloc de granit sur lequel Raoul d'Andrézy allait poser sa main de conquérant ». Alors là, nous ne sommes pas encore dans les ruines de l'abbaye, mais en face, devant le bureau de poste de Jumièges. Avant d'être un bureau de poste, cette maison appartenait à un oncle de Maurice Leblanc. C'est là une plaque en témoigne qui est sous nos yeux, qu'il a commencé d'écrire sous le pseudonyme de l'abbé de Jumièges. La renommée de Lupin a rejeté dans l'oubli ses nouvelles, qu'il publiait dans le Gil Blas, vers 1890. On y retrouve pourtant certains traits de ses œuvres ultérieures, et notamment un mépris de fer pour la fameuse « justice de mon pays », à laquelle les politiciens de toutes les époques affirment hypocritement faire confiance. Leblanc n'aimait guère les politiques. On se souvient que Lupin a pour insulte « salaud, canaille, député ». Il vivait, il est vrai, au temps du scandale du Panama, dont Leblanc a donné une relation vibrante et noire dans le bouchon de cristal. Le bouchon de cristal s'achève d'ailleurs sur une guillotinade, et il a fort à parier que Leblanc n'était pas ami de la peine de mort. Mais je reviens à la justice et à ses hommes. Dans les Lupins, la justice et ses hommes sont passablement maltraités. Le parquet comporte, si l'on peut dire, un nombre invraisemblable d'échardes. Les juges d'instruction sont ridicules, s'appellent tous plus ou moins formeries, et soit sont joués par l'aventurier, qui se moque d'eux, soit se font faire la leçon par un simple élève de rhétorique à Janson de Sailly, l'inoubliable Isidore Beautrelet de l'Aiguille Creuse. Les nouvelles dont je parlais, celles du soi-disant abbé de Jumièges, Maurice Leblanc, montrent les premiers signes de cette fièvre antijudiciaire. Dans l'une des plus saisissantes, qui s'appelle « Un effroyable mystère », un procureur sadique tient en haleine une réunion d'amis en détaillant avec passion un crime horrible qu'il n'a pas pu résoudre et pour finir, éclate de rire et s'en va. Dans l'échafaud, c'est un innocent qui, je cite, « patiemment attend l'heure de la justice, sauf qu'il n'y a pas de justice et que l'innocent finit la tête tranchée ». Lupin ne deviendra pas révolutionnaire pour autant, il se contentera de survoler, en le subvertissant, le monde abject de la justice des hommes. Qu'il y ait une autre justice, celle de Dieu, on l'a pensé ici, on en a vécu, du 8e siècle à la Révolution française. Nous sommes déplacés, nous sommes à présent devant les ruines même de l'abbaye de Jumièges. Ce sont des arcs gothiques que nous voyons devant nous, ruinés, splendides, et qu'on croirait planter là pour illustrer le génie du christianisme de Chateaubriand. Mais l'œil s'attache davantage à la façade pré-romane de l'église Saint-Pierre ou à la façade romane de l'abbatiale. Dans leur rigoureuse beauté, elles ont quelque chose de cet Orient qui plus tard devait inspirer la réforme cistercienne. Et l'on se souvient d'ailleurs que Saint-Philibert, qui a vécu ici, a introduit dans la règle les préceptes de Basile le Grand et ceux de Macaire le Copte, faisant ainsi déboucher la Seine dans les déserts d'Égypte. C'est en quelque sorte l'inverse de l'expédition de Bonaparte que nous contemplons en regardant ces ruines immobiles. Nous voici à Alexandrie-sur-Seine. Et les ombres des moines normands ressemblent à celles des pères de l'Égypte, Moïse le Noir, Abba Pambo et le grand Arsène qui avaient été ministres à Constantinople et détestaient les évêques. Ce sont peut-être eux, au fond, les vrais aventuriers. Il y a, n'en déplaise à Lupin, les aventures immobiles dont les tumultes, disait Giono, sont silence pour le reste du monde et qui ne sont peut-être pas les moins fructueuses. On entend ici, à Jumièges, un peu du silence épais du désert de Cété qui s'étend à la sortie d'Alexandrie. Le silence, disait le grand Isaac, le Syrien, est le mystère du siècle qui vient.
Et vous retrouverez un prochain épisode de Fiction Imagine demain. C'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée au voyage à Nantes. L'émission a été préparée par Chouchen, Gergaillon, Luque Vauvillier, Marianne Chassor, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation, Liscombe, à la technique, Théo Gomard. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast.
France Culture, l'esprit d'ouverture.